soyez les bienvenus avec les Lacadons d'Amis, Morgane Gadignan, Daniel Morin, Paul Mirabel, Jean-Guy Bachureau et notre invité Isabelle Carré.
Isabelle Carré.
Isabelle, ça faisait longtemps.
Une éternité.
Je ne sais plus à quoi elle ressemble.
Ouais, c'est ce qu'on a dit depuis le début, pardon.
Je ne sais même plus à quoi elle ressemble.
Elle est toujours aussi belle, toujours aussi jeune, toujours aussi excellente actrice. C'est surtout la raison pour laquelle on la reçoit. Ouais.
Bonjour, vous êtes belle.
Bonjour, vous êtes belle. Au revoir. Cette brillante actrice est à l'affiche d'un film d'Éric Bénard aux côtés de. Alors aussi, on est amoureux
de Grégory Gadebois. Bah, ça c'est moi.
Moi aussi, je suis amoureux de Grégory Gadebois. Benjamin Laverne.
Pas tous les avoir.
Guillaume de Tonquédec. Enfin bref, un casting de ouf. Et Isabelle Carré va venir nous parler de ce film Blind Test pour commencer. T'as l'air très concentré, Kissaring Morgan.
Oui. Oui, je me concentre sur le blind test à venir.
C'est vrai ?
Oui, je finis ma chronique.
Paul, il paraît que tu as pris une bonne résolution, c'est essayer de donner une ou deux réponses dans l'année.
Oui, avant décembre.
D'accord. Ah, avant décembre, tu te mets la pression en plus.
Il a marqué deux points l'année dernière.
Ok. Comment ça avec ça ?
Paul ?
Oui.
Jules ?
Mais.
Délicieux.
Oui, c'est ma pression.
Les incantations de Maggie qui marchent.
Et il nous fait la choré de Jules en plus. Tu dis Jules ou Jules ?
Jules.
Marseille, hein, c'est ça, hein ?
Oui.
Ouais, d'accord. Ok, mais je savais pas que t'étais.
Bah si, c'est lui.
Bah ouais. Quoi, c'est lui ?
Bah toutes les musiques urbaines, c'est toujours Paul qui trouve. Hein.
Ok, d'accord, on va voir là, ça c'est très urbain.
Morgane, Leïla, oui. Patrick Bruel.
Ok, donc il n'y a pas de cliché, hein, on est d'accord. Il y a zéro cliché. Hein. Toi, tu. On est d'accord, on n'est pas segmenté,
on n'est pas genré, on n'est pas communautaire.
Oh,
c'est un melting pot, c'est communautaire enfin.
Est-ce qu'il y a une chanson de Michel Sardou sur les gâteaux ?
A priori, c'est Café des Délices, il n'est pas à Pointe-à-Pitre.
A priori, c'est plutôt pour moi, Café des Délices.
Oui,
elle s'est montée à ça, quoi.
Enfin, vous.
Le cassap des délices.
Je parle de vous, les gens qui ont des origines bizarres.
Ah, des origines.
Mais oui.
Exotique.
Tout sauf égyptien, quoi. Je veux dire, un truc bizarre.
Ouais, d'accord, ok. Ok, c'est la guerre. On commence comme ça.
Ok.
On pensait qu'on était une grande communauté.
C'est ça. Ouais. Citoyens de la planète, voilà. Tu veux dire.
Mais quelle horreur.
Attention.
Leïla,
oui.
Mangez-moi.
Donc on est d'accord. Alors quand il s'agit de drogue.
Non.
Si, bah Leïla, si. 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 Bien sûr que si.
On a chacun sa spécialité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Respectez-moi.
On aurait voulu le faire en scénario, c'était pas vu.
C'est clair.
Il y a quelque chose pour moi, ou
pas ? C'est fou. Oui, il y a un truc pour toi. Attends, bouge pas. Il y a une chanson bien beauf.
Oh, c'est la guerre.
Il y a Johnny.
Tiens. C'est ton âge.
Morgane, Dutronc.
Dutronc.
Oui, Morgane.
Vraiment à ça.
Juste
quoi.
À la.
Ouais, à ça. Alors qu'est-ce que. J'ai écrit cette chanson en pensant
à tous les gens. Qui ne font. Et cette chanson s'appelle Sur une nappe de restaurant.
Ah oui.
Quand t'as pas d'idée, vas-y, lance-toi quand même.
Non mais les instrus, c'est très du coup.
C'est vrai que ça.
Ouais, ça là.
Ouais, ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est très sixties hein, aussi. Ouais. Attention.
C'est du dub quoi.
Prodigy ?
Non. Tu vas connaître. C'est pas facile, je reconnais.
Brigitte Fontaine,
jolie.
Là.
Voilà. Ah ouais. À la rue.
Délice et orgue, signé Brigitte Fontaine. 2 points pour Leïla et 2 points pour Morgane. 1 pour Paul.
Ouais.
Pour Daniel.
On dirait un film des années 70.
Et il y a un film de quoi ?
D'action.
Un film de pétanque.
Oh, dis donc. Et bien
oh, si tu n'aimes pas quoi. Le sport, on en écoute pas les
oui,
autres.
Oui, c'est hein. Sûr.
Paul, rien ?
Jules ?
Non.
Ça chante à un moment ?
Ouais, ça chante. Maintenant.
J'ai combattu. Morgane, là ?
Oui, Morgane.
Catherine ?
Oui, non, c'est Morgane qui a trouvé.
Qu'est-ce que ouais. T'essayes de faire ?
Bah, sur un malentendu.
On partage.
Et communautaire,
la famille.
Faire la révolution sur un tapis volant.
Vous fatiguez tous.
Attention, le pour l'instant, exactement, le Super Banco arrive. Morgane a 3 points, 2 pour Leïla, 1 pour Paul. Tout se joue maintenant, 4 points. Et il y a forcément restaurant dans le titre.
Borsalino.
Attendez qu'il chante parce que je connaissais même pas la chanson.
Je voudrais bien
Daniel,
goûter le potage au nid de corbeau.
Belle pêche.
Exactement. Michel Belle.
Oh, j'ai tellement cuit de Benabar.
Et c'est une victoire sur le fil de Daniel Morin. Le vol parfait, c'est parfait. Merci d'accueillir Isabelle Carré.
Oh oui.
On peut mettre à droite
l'original. Avec Nagui.
Bonjour.
Bienvenue Isabelle, soyez la bienvenue. C'est une belle journée parce que à la fois vous avez votre roman pour lequel nous vous avions accueilli du côté des Indiens qui est publié en livre de poche.
Exactement.
Voilà, ouais. Nous l'avions adoré. C'est l'occasion pour nous de redire à quel point cette histoire d'ascenseur, de tromperie, d'enfant et de papa est absolument bouleversante et
familière.
Et surtout bien écrite. Et vous l'êtes tout autant bouleversante dans Délicieux.
Vous êtes bien écrite.
Ouais, je suis bien écrite aussi.
Bien écrite. Sur ce film réalisé par Éric Bénard, alors il y a tout un préambule qui explique comment les restaurants entre guillemets n'existaient pas au moment où se situe le film, juste un peu avant la Révolution.
Il y avait les relais de poste, voilà. Et puis sinon, il y avait les grands cuisiniers qui étaient affiliés au château. Et donc la grande nourriture, la vraie cuisine, n'était pas pour tout le monde. Quoi. Ouais. C'était...
Et plein de choses n'existaient pas, que ce soit la manière de faire un menu, l'ordre des plats, les plateaux de fromage, l'idée de manger sucré ou pas. Enfin, il y avait plein de choses qui sont
d'avoir des tables
comme ça.
Séparées, ouais, le mettre des bouquets de fleurs sur le pain tranché. Ouais, c'est mon personnage en fait qui Louise qui insuffle toute cette inspiration. Au personnage joué par Grégory Gadebois, Manseron, pour raconter le début du film. Il, lui, est donc le cuisinier d'un duc qui le chasse.
Joué par Benjamin Laverne,
qui est génial.
Parfaitement odieux.
Qui est complètement génial.
Très odieux.
Et bon en odieux.
Il le tient bien.
En fait, le cuisinier des châteaux n'avait pas le droit d'inventer, n'avait pas le droit de créer. Il devait reproduire ce qu'on lui demandait de faire. Et tout à coup, ce Manseron, ce cuisinier,
se permet
de créer le titre du film, un délicieux, avec de la truffe et de la pomme de terre. Mais la truffe et la pomme de terre, à ce moment-là, c'était sale.
C'est ce qu'on donnait aux cochons.
C'est ce qu'on donnait aux cochons. C'était dans la terre. Tout ce qui était près de la terre, en fait, était considéré comme peu noble, pas pour les nobles.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le film. C'est l'une des répliques d'un curé totalement odieux qui se trouve à la droite du duc et qui finalement va bouleverser la vie de ce chef. Va d'abord l'humilier, puis bouleverser totalement sa vie.
Parce qu'il va partir du château et à partir de là, soit il s'enferme et il n'exerce plus son talent, soit il va inventer le premier restaurant.
Il y a donc toute cette trame à la fois historique, gustative, il y a des images absolument sublimes, des paysages formidables. Bon, quelques bêtes égorgées, quelques têtes d'animaux coupées, mais ça fait partie de l'histoire.
C'est conforme à l'histoire.
Ah non, aucun animal n'a souffert sur ce plateau.
Non, il était déjà mort avant qu'on
lui coupe la tête. Après. On a recollé la tête après.
Non mais c'est pas faux, on a fait quand même des poules marionnettes.
Mais non.
Ah mais si, parce qu'à un moment, les poules...
Les poules meurent parce qu'elles mangent...
Dis pas tout.
Non, faut pas que je raconte tout, mais quand même, c'était très très drôle de voir tous les jours, parce qu'il fallait que ça soit tellement parfait. Et on s'est dit, avec les effets spéciaux...
Donc ça marionnettiste.
Il y avait des marionnettistes de poules, tous les jours, sur le plateau, s'exerçaient.
Il y a des métiers qu'on ignore.
Il y a donc toute cette histoire autour de la Révolution. On est juste avant la prise de la Bastille, historiquement. Donc il y a des costumes formidables. Guillaume de Tonquédec, lui aussi, pas mal en odieux dans son personnage.
Il est aux ordres.
Ouais. Et puis il y a une affaire de vengeance, que ce soit d'ailleurs pour ce chef comme pour vous, chacun a son secret, a son passé, a des choses à régler.
Ce sont deux personnages qui essayent de retrouver le respect, en fait. Le respect d'eux-mêmes et le respect des autres.
Ils n'ont pas la même motivation, ils ne sont pas animés par la même volonté.
Mais qui s'aident l'un l'autre. Vraiment, ils se modèlent l'un l'autre.
Isabelle Carré, on va en parler avec vous jusqu'à midi et demi. On est ravis de vous accueillir. Nous, oui, mais pas Morgane Cadizian.
Et qui est bon pour papa.
Elle n'a pas changé. Elle
non.
Elle vous aime pas.
Non, toujours pas. Isabelle Carré.
C'est vrai, je me souviens que la dernière fois, c'était bien.
Bah, ça
bien
va pas
mieux. Ça continue.
Ah là là. Accrochez-vous parce que, non, je vous aime pas parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes plus indispensable à cette émission que moi, quoi.
Ouais.
Non, mais, pardon, mais c'est dégueulasse, Paul. Je t'explique. Nous, on est juste l'apéro en attendant Isabelle Carré, quoi. Alors qu'on est là hyper souvent. On n'a même pas attendu deux jours pleins avant d'inviter Isabelle dans cette émission. Franchement, soyez franche. Si vous voulez travailler ici, moi, j'échange ma place avec vous, mais quand vous voulez. On n'a même pas refaire papier d'identité. J'ai une cousine qui s'appelle Isabelle Cadignan, je vous jure que c'est vrai, avec un bon blackface, vous vous en sortirez très bien. En plus, ça tombe bien, j'ai acheté un fond de teint, une demi-teinte de trop, donc allons-y. Une petite polémique raciste sur France Inter pour la rentrée, ça met toujours un coup de fouet sans mauvais jeu de mots. L'année dernière, vous êtes venu pour la sortie de votre livre Du côté des Indiens. Là, vous venez pour la sortie du film Délicieux, un film d'époque où vous cuisinez en beau costume avec des chutes de tissu sur la tête. Moi, je vous soupçonne un peu de vous forcer à avoir une actu pour venir nous voir ici.
C'est vrai.
Franchement, le biopic sur la laitière, fallait y penser. Qui l'eût cru que la petite dame dessinée sur les cartons de yaourt avant le rachat par Lactalis, bah, c'était Isabelle Carré. Bientôt, on apprendra que l'ourson de Cajoline, c'était Daniel avant la pelade. Non mais, c'est bien. C'est bien d'être venue, Isabelle. Moi, ça instaure des petits points de repère dans ma vie. Passeport tous les 10 ans, brossage de dents tous les 2 jours, Isabelle Carré tous les ans. En plus, franchement, nous, on vous aime bien. Enfin, eux, ils vous aiment bien. Moi, c'est compliqué, j'ai du mal à m'attacher. Je vous expliquerai à la pause. Mais franchement, la prochaine fois, venez juste pour venir. Et oui, Leïla, oui. Titre, tu as raison. Bien joué. Non mais venez juste pour nous raconter vos vacances. Ça intéresse les vacances d'Isabelle Carré. Franchement, au hasard, en vous regardant comme ça, j'imagine que ça va être sur la côte basque. C'est Isabelle Carré. Hein. Je vous vois tellement dire que vous aimez regarder l'océan quand la pluie arrive. En même temps, c'est logique. Elle a un César, un prix Romy Schneider. Elle va pas venir à Pattaya avec nous, Nagui. Donc, dans ce film sur la création du tout premier restaurant qui, scoop du matin, n'est pas Mezzo Pasta, vous partagez l'affiche avec Grégory Gadebois, Marie-Julie Baupe, Benjamin Laverne, on n'avait pas vu dans un film français à l'affiche depuis au moins 6 minutes 30. En tout cas, merci à eux, parce que quelques siècles après, on est tous comme des gros cons à scanner des QR codes pour au final décider qu'on n'a pas faim. Mais c'était chouette, non, les amis, cet été, de retrouver les restaurants. Ah, moi, ça m'a manqué, je me rappelais plus de toutes les sensations, de te prendre la cuillère du coca dans l'œil, espérer que les autres vont commander des desserts, puis personne qui n'ose, donc tout le monde est frustré.
Rester la main en l'air pour que...
Exactement, les gens qui disent au moment du dessert, non mais moi ça va, juste un café, je vous emmerde en fait, mourez, prenez au moins un crumble pour le geste, sinon derrière, moi, je peux pas dire bah oui, les profiteroles, s'il vous plaît, bah non, une seule cuillère. Et, parce que vous voulez dire. Et le petit jeu d'acteur, ça m'avait manqué quand tu veux prendre la bouteille la moins chère et que tu fais une petite feinte de vigneron. Non mais, le petit Luberon, il m'a l'air très bien. Oh bah, c'est celui à 19 euros en plus, ça tombe bien, tu parles. Alors qu'avant, t'étais aux toilettes sur ton appli Crédit Mutuel en train de te dire que c'est soit la bouteille, soit de nouveaux souliers pour la rentrée. Bref, merci à la personne qui a inventé les restaurants, merci à la personne qui a réalisé un film dessus, parce que ça nous permet au moins d'avoir une excuse pour inviter Isabelle Carré.
Merci, mon gars. Isabelle Carré dans le film Délicieux qui sortira le 8 septembre. Pas demain, pas ce mercredi, mais il va falloir attendre quelques dodos supplémentaires pour aller au cinéma et voir ce film avec votre personnage qui est... Elle est plutôt victime ou elle est plutôt combattante?
Alors, c'est difficile parce que c'est un peu un 3 en 1 en fait.
Elle est ambiguë, ouais.
Moi j'ai adoré ça parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir un personnage aussi riche. En général on vous propose une couleur, c'est bleu et puis parfois ça tourne un peu au violet. Mais non, là j'en avais vraiment pour mon argent, j'avais trois personnages, ouais. Une belle palette. Au départ je suis une confiturière qui veut devenir apprentie. Apprenti cuisinière.
Qui paye même pour devenir apprenti.
Parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Ouais. Les femmes n'étaient pas en cuisine. On devrait d'ailleurs faire un film sur l'évolution de la place des femmes en cuisine, il y aurait à dire.
Oh bah, c'est pas un film, c'est une série.
Ouais. Ouais, hier, ceci dit, on était très heureux parce qu'on a fait une avant-première au Max Linder et il y avait tous les chefs étoilés qui sont venus. Et il y avait trois femmes chefs étoilées, qui n'est pas des moindres, qui sont venues et qui ont beaucoup aimé le film. Donc on était très heureux, c'était très émouvant.
Il n'y a personne en cuisine pendant ce temps-là.
Voilà. Mais quand même, voilà, les femmes étaient pas, voilà, elles devaient juste faire la soupe. Et elles n'avaient pas accès à ça. Donc mon personnage est assez féministe et révolutionnaire.
Il est ambigu, et puis elle se bat pour avoir... Enfin, l'ambiguïté, c'est plutôt dans ce qu'elle cache par rapport à...
Et après, oui, on pense d'elle qu'elle est plutôt une prostituée. Et finalement,
on peut pas tout dire,
n'est-elle pas noble?
Ouais.
3 en 1.
J'aurais pas tout dit.
Il y a quelques rebondissements intéressants. Et même par rapport à Grégory Gadebois, dont on prend fait et cause dès le début. C'est-à-dire, on est de son côté parce qu'il est, humilié. On sent que c'est quelqu'un de passionné et qui tombe dans l'échelle sociale du moment. En tout cas, il se retrouve en train de galérer dans son relais de poste. Et pourtant, même là aussi, entre les personnages, va s'installer un rapport qui est peut-être, enfin même sûrement gênant par rapport au code et à l'éducation qu'on a aujourd'hui, mais par rapport à l'époque, assez simple. Lui, il a une femme qui arrive, il commence même à la désirer et à l'entreprendre. Elle installe un rapport,
sur la
défensive. Oui,
on était un peu comme dans un western,
c'est moi qui paye. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un duel.
On était un peu comme, oui, c'était un duel avec des belles joutes verbales, mais aussi des beaux moments de silence. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans tous les films d'ailleurs d'Éric Bénard, parce que j'avais déjà travaillé avec lui dans L'Esprit de famille, et je m'étais régalée. Donc quand il m'a proposé ce scénario là j'avais vraiment envie d'y aller, parce que je sais que comment il dirige les acteurs et comment il sait ménager, quoi. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les silences aussi et les regards et faire ouvrir l'intériorité des personnages, c'est pas très, mais voilà, qui est une vraie intériorité.
C'est beau,
quoi,
ce que vous dites. Ouais. Non, mais vous êtes vraiment bien écrit, hein.
Vous dites que dans les films d'Éric Bénard, il y a un climat particulier.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, un climat particulier dans un film?
On est vraiment dans une bulle de fiction. D'abord, là, ils sont en train de tourner un nouveau film avec Grégory Gadebois. Ils sont partis où? Au bout d'une montagne. C'est un peu ça. Il nous prend, il nous met dans un autre univers, un peu comme faisaient d'ailleurs les frères Larieux quand je me suis retrouvée dans la montagne noire avec eux. On est ailleurs, voilà. Il nous embarque dans
ailleurs,
son univers.
Au point d'être isolé et coupé du monde.
Coupé du monde. Là, on était
pas de télé, pas d'information, pas de téléphone, pas de portable, pas d'ordinateur.
C'est quasiment ça, ouais.
On n'est pas loin de la séquestration, quand même.
Dans un décor incroyable, ouais. Les montagnes dans le Cantal. Oui, dans la montagne, on avait cette ferme qui n'avait pas été ouverte depuis 200 ans.
Ah oui.
Qu'un repéreur a trouvé, ça c'est un métier incroyable, le métier de repéreur. On n'en parle pas souvent, mais enfin.
Il va chercher
même,
le décor improbable.
Le décor, et là il y avait vraiment beaucoup de choses qu'il fallait cocher, et il l'a trouvé au bout d'un chemin. Parce que cette auberge, pourquoi la première création du restaurant en réalité, c'était à Paris.
D'accord.
Alors
c'était au Grand Véfour.
Quel est le lien historique entre la réalité et la fiction? Le premier
Alors,
restaurant,
c'est
le Véfour.
C'est vrai que les nobles se gardaient les grands cuisiniers. D'accord. C'est vrai que les gens lambda n'avaient pas, outre les nobles, n'avaient pas accès à la grande cuisine. C'est vrai que ça aurait pu se créer comme ça en réalité. Mais Éric Bénard voulait que ça se crée en province dans ce film. Pourquoi? Et pas à Paris? Parce que le goût, le terroir, c'est les régions. C'est pas Paris.
C'est la culture, ce sont les plantes. Il y a même une scène où il.
C'est nos spécialités qui font notre renommée.
Voilà, s'allonge pour faire une sieste dans un pré et se tourne vers son apprenti que vous interprétez en disant. Trouve-nous de quoi manger. Et là, vous devez cueillir dans la nature de...
Oui, ce qui est très beau, ce que disait Grégory Gadebois hier, on a fait une interview ensemble, il disait, en fait, moi j'ai appris à regarder autrement, avec les yeux d'un cuisinier. Je vois plus un champ avec des fleurs, je vois qu'est-ce qu'on peut manger. Qu'est-ce qui va améliorer mon plat et comment, voilà. Regarde autour de toi, il me dit, regarde autour de toi et trouve.
Et respecte l'essentiel, c'est-à-dire le goût. Parce que les produits sont mis en avant aussi, une sorte de blind test pendant le film.
Et puis c'est aussi le rapport à ce terroir, c'est-à-dire que ce chef en a marre d'aller chercher
des épices,
du gingembre,
du cannelle,
et il se dit simplement, mais
là,
moi, dans le champ...
Là, ça résonne par rapport à aujourd'hui, le circuit court, on peut dire aujourd'hui, on appelle ça comme ça.
C'est ça.
Mais le film, quand je l'ai lu...
On retrouve du Marc Vera, du Passard dans ces genres de répliques, ouais.
D'ailleurs, il a adoré le film, Marc Vera. Il a été comme un fou avec le film.
Oui, mais alors le mec est assis derrière avec le chapeau, il a rien vu. C'est le problème.
Mais c'est vrai, Isabelle, que c'est un film qui résonne avec aujourd'hui, avec ce qu'on traverse aussi d'une certaine façon.
Mais complètement, c'était déjà à la lecture du scénario, moi, ça me faisait des sueurs froides tellement je trouvais que c'était actuel. Alors je sais que ça fait, Molière, ça résonne tellement aujourd'hui, c'est tellement actuel. Non, mais là, c'est vrai. C'est-à-dire, quand je le disais, je me disais, mais c'est fou. On en est toujours là.
Et parce qu'on retrouve des valeurs qui sont, enfin des sujets qui sont très actuels, la lutte des classes, la place
quand
de la femme.
Quand on tournait, on était en pleine crise des gilets jaunes, donc ça c'était assez étonnant. On parlait des circuits courts, le féminisme aussi, c'est un thème voilà,
tristement d'actualité.
Oui, exactement. Pour un moment, ouais. Et tristement ou bien d'ailleurs, parce que c'est...
Non, c'est bien c'est... de se battre, mais voilà, malheureusement, exactement. Il faut encore se battre, c'est ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Et la place des femmes en cuisine, on en parlait tout à l'heure. Oui. Et puis,
bah alors, on n'en parle pas, non, c'est la place des...
Et l'ouverture, l'ouverture du premier restaurant au moment où les restaurants ferment.
Ouais.
Et c'est vrai que parler de la création du premier restaurant, c'est quand même une création française, hein, on peut être fier de nous, comme le cinéma est une création française. Et c'est assez étonnant d'ailleurs que pendant ce confinement, ce sont les deux choses qui ont les deux catégories professionnelles qui ont le plus souffert.
Ouais. Mmh.
Et on se situe justement, vous parlez on parle de combat social au moment de la révolution, c'est-à-dire au moment où tout peut basculer, ça tient à pas grand-chose. C'est aussi la fameuse vraie ou fausse phrase de « on a faim, donnez-nous du pain, qui mange des brioches, on n'a pas de pain, c'est ça qui donne des brioches. »
Qui mange de la brioche.
Qui mange de la brioche, sinon pas de pain, et ainsi de suite. Vrai ou faux, c'est vrai qu'il y aura toujours un débat sur cette phrase ou cette réplique.
Je crois que c'est vrai.
Mais...
Je crois que c'est apocryphe.
Mais en tout cas, on est ce moment-là, est-ce que déjà, historiquement, la naissance de la restauration au Grand Véfour se situe dans cette période-là aussi ? Qu'a respecté de l'histoire, Éric Bénard ?
En fait, oui, c'était avant la Révolution française. Alors nous, évidemment, on a raccourci tout ça. Bien sûr. S'est fait sur un temps beaucoup plus long.
Et c'est pas une seule femme qui a eu l'idée et des plateaux fromage et du dessert.
Mais c'est beau que ça soit l'idée d'une femme.
Et de couper le pain en tranches pour...
pour pas le gâcher.
Pour pas le gâcher. Non, ça, c'est le fils qui a l'idée, d'ailleurs, de couper le pain en tranches.
Non, c'est elle.
Ah bon, d'accord, ok. Très bien.
Le fils a un grand rôle, puisque lui, il a les idées du siècle des Lumières, il lit Rousseau, et c'est par lui, en fait, que ce vent de liberté arrive. C'est un film qui parle vraiment de la liberté et du goût. Qu'est-ce qu'on est censé aimer? Qu'est-ce qu'on est censé cuisiner? Qu'est-ce qu'on est censé, quel diktat on est censé suivre? Et à quel moment on arrive à se libérer de ça? Et à se dire, finalement, est-ce que ça, je l'aime parce que je l'aime ou parce qu'on m'a demandé de l'aimer?
C'est ça.
Et puis c'est une ode à la jouissance aussi, parce que le parallèle est fait entre le plaisir gustatif, le plaisir de la chair.
Il est même clairement dit que l'un prépare l'autre.
Oui, c'est ça, qu'on peut avoir une forme de je sais pas, de turgescence quand on goûte quelque chose. Pardon, j'ai essayé d'employer un terme qui était pas banal.
Pense à tous ceux qui sont privés.
Oui, c'est ça. Par rapport à la nourriture, quoi.
Et j'ai envie de dire aujourd'hui aussi un appel à sortir, de chez soi. C'est très bien les plateformes et Uber Eats, mais à un moment donné, sortez, allez vers les autres, partagez, retrouvons un peu de communion, un peu de chaleur.
Non, mais alors c'est amusant que vous disiez ça, parce que justement, l'une des choses qui choque les nobles à ce moment-là, c'est de partager une salle avec d'autres. Mais je ne vais pas manger devant d'autres personnes, puisque c'est ça qui est choqué. Et ils n'arrêtent pas de dire, c'est une très mauvaise idée. Que de manger en public, entre guillemets.
Et la création du restaurant explose tout ça. Et vraiment dans l'idée, au contraire, de la démocratisation de la cuisine, du partage, d'être ensemble, ne pas...
Et de choisir ce que l'on mange, c'est-à-dire d'avoir un menu aussi, il y a la naissance du menu.
Et de choisir.
Et c'est le chef qui décide de faire sa carte et il n'est pas, ce n'est pas imposé par ses clients. Et puis, il y a cette idée audacieuse de couper les pommes de terre en longueur et de les faire frire, mais ça marche pas.
Et c'est
jamais.
Drôle que vous dites ça, parce que, et choisir, oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est choisir ce film. Parce que Éric Bénard le disait très, très justement l'autre jour, on se retrouve maintenant chez nous, avec nos plateformes, où il y a carrément on vous propose de choisir pour vous le film. On n'a même plus rien à
parce
choisir
parce qu'il y a des algorithmes comme sur les sites marchands en fonction de ce que vous avez déjà acheté ou commandé. C'est ça.
Bientôt on va devenir comme Wally. C'est ces gens qu'on pousse et que
il y a un truc très très drôle, c'est que sur l'un de mes sur un compte d'achat
attention ce que tu dis,
ma fille est allée acheter un truc pour fille et donc je me retrouve dans l'algorithme avec plein de propositions de trucs très féminins, donc je lui dis plus jamais tu passes par mon ordinateur pour commander quelque chose.
Mais cette robe te va très bien,
Nicky. C'est ça, c'est ça. j'ai pas la même XS, je ne rentre pas dans le XS, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça s'appelle Délicieux, et il porte bien son titre avec des acteurs, vous l'avez compris, une palette incroyable. Grégory Gadebois, Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédec, Isabelle Carré, le meilleur réuni pour Délicieux, ça sera le 8 septembre.
C'est que des acteurs de théâtre en fait, il a réuni que des acteurs de théâtre, et c'est vrai que quand on est en face d'un acteur comme Grégory Gadebois, il se passe des trucs quoi, vraiment dans son regard, et il a une économie de jeu et en même temps une puissance.
Quelle est pour vous la différence entre un acteur de cinéma et un acteur de théâtre?
Le cachet.
Il y a quelque chose de... Ça me fait rire. C'est pas faux. Il y a peut-être une mentalité qui est plus... Ouais, quand on fait du théâtre, c'est comme un artisanat, en fait. Il y a moins d'argent en jeu, c'est tout à fait juste.
Mais concrètement, Isabelle, est-ce que ça se joue au regard, à l'écoute, au partage?
C'est un peu tout ça, ouais. C'est un peu tout ça, et c'est... Parce que je trouve dans Grégory Gadebois de fascinant, c'est qu'il peut passer dans son regard à la naïveté. La seconde d'après, il peut être dur, même monstrueux, et ensuite tendre. Voilà, et on a l'impression qu'il a rien fabriqué, quoi, qu'il a rien fait. Et en même temps, c'est puissant et c'est.
Mais l'alcool joue beaucoup chez lui.
Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que vous venez de décrire pour Grégory Gadebois vous va extrêmement bien aussi? Vous pouvez passer d'un état à l'autre. Vous avez l'écoute, vous avez le regard.
C'est gentil.
Il faut le reconnaître. Et c'est le cas de tout ce casting délicieux. Donc le 8 septembre au cinéma. Voici Monsieur Paul Mirabel.
Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.
Bonjour,
alors,
Paul.
Est-ce que tout le monde va bien en cette rentrée?
Oui, Paul.
Eh bien,
oui.
Écoutez, moi aussi, ça va. Je reviens de vacances,
voit, là,
comme en témoigne ce teint rouge malgré 6 litres de crème solaire indice 95.
C'est le même problème. Hein.
Ce qui m'embête par contre, c'est que je suis parti un mois en vacances et quand je suis revenu, j'avais juste deux enveloppes dans ma boîte aux lettres. Oui. Une, c'était un colis pour ma voisine et l'autre, c'était une annonce pour trouver une femme chaude dans ma région. Donc autant vous dire que je n'ai manqué à personne pendant un mois. Mais sinon, je suis très heureux de vous revoir en cette rentrée. Là, sauf un. Alors, je dirais pas qui, par contre, puisque cette année, j'ai décidé d'être un adulte mature et responsable et que je ne veux surtout pas de problème avec l'Égypte. Voilà.
Ah oui, fais gaffe.
Non, c'est pas le moment. Ouais.
C'est jamais le moment, Nagui.
Je suis très content de retravailler ce matin pour une autre raison extrêmement simple, qui est que j'ai passé l'été à dépenser l'intégralité de mes économies dans de la burrata. Voilà, puisqu'on parle de cuisine ce matin. Peut-être que ça l'a fait à certains d'entre vous d'ailleurs, mais j'ai traversé l'été en étant persuadé que j'étais l'émir du Qatar, moi. Ouais. Tu sais, parfois, t'es au restaurant, tu commandes une quatrième île flottante, et quand on t'amène l'addition, tu te dis, attends, est-ce que je viens d'acheter une île flottante ou l'île de Ré, là? Vraiment, je crois que la phrase que j'ai le plus entendue cet été, moi, pour être tout à fait honnête, c'est, Monsieur Mirabel, vous avez dépassé vos plafonds. Et moi qui répondais à mon banquier, monsieur, vu où on en est, là, actuellement, c'est plus un plafond, c'est un rooftop. Hein, puisque là, actuellement, j'ai une carte de crédit qui est tellement vide qu'elle me sert à badger dans l'ascenseur de France Inter. J'ai un peu voyagé, tout de même, cet été, de burrata en burrata. Je me suis retrouvé par inadvertance à Monaco et à Cannes. Donc, comme vous pouvez le constater, des vacances vraiment placées sous le signe
de l'économie.
De l'économie et de la simplicité.
Et de la sobriété.
Bien sûr. Il y avait un peu de monde à l'aéroport de Nice, par contre, mais j'ai eu de la chance puisqu'il y avait l'air d'en avoir un peu moins qu'à celui de Kaboul. J'ai vu des photos, ça avait l'air d'être vraiment...
Ah non, il veut pas, là.
Non, il n'y a pas de date limite. Ouais,
ça avait l'air d'être un peu blindé au niveau des réservations. Je suis parti avec la compagnie EasyJet.
C'est horrible!
Horrible!
Mais je suis gentil, d'habitude. Je suis parti avec la compagnie EasyJet, moi d'ailleurs, cette année. C'est très pratique, EasyJet, pour voyager. Il faut juste arriver à l'aéroport avec 11 heures d'avance et avoir une valise de 200 grammes, mais sinon, ça va. Moi, il y a même le pilote qui m'a proposé d'avancer son siège pour que j'ai un peu plus de place pour les jambes, mais qui après m'a demandé si je savais où se situaient les clignotants de l'appareil. Heureusement, par contre, j'ai passé un bon été parce que j'ai vu des superbes choses à Monaco, des choses que je n'avais pas vues depuis longtemps, comme le soleil, la mer et des jus d'orange à 17 euros. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans ce coin de la France d'ailleurs, mais si un jour on vous le propose, répondez que vous êtes cas contact, puisque je n'ai jamais perdu autant d'argent en un laps de temps aussi restreint, à part la fois où j'ai parié avec Nagui que j'avais mes chances avec Clara Luciani. Et là, c'était vite
réglé. Ouais.
Oui. Vraiment, à posteriori, j'ai une théorie d'ailleurs sur Monaco. Je pense que c'est une ville qui fonctionne en sans contact, puisqu'un jour, je suis passé devant un arbre avec ma carte bleue dans la poche, ça m'a débité de 50 euros directement. J'allais voir un match de foot à Monaco aussi, là-bas, où pour vous situer, il y avait à peu près la même ambiance qu'autour de ce plateau. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis levé pendant le match pour applaudir, on m'a arrêté pour tapage nocturne. J'ai quand même visité un autre truc après Monaco. J'ai eu la chance d'aller à Cannes aussi pour le fameux festival. Voilà. Sauf qu'il était terminé depuis 3 semaines. Du coup, il y avait beaucoup plus de place sur le tapis rouge. J'étais pas logé au Martinez d'ailleurs cette année, moi. Ni celle d'avant d'ailleurs, ni celle d'avant non plus. J'étais logé au Rodriguez.
Le cousin.
C'est un autre hôtel où le matin, c'est toi qui fais ton lit et où le room service, c'est un mec qui te jette des croissants par la fenêtre. Mais malgré la fin de l'été, je suis néanmoins très heureux de vous revoir aujourd'hui pour cette rentrée. Il y a juste une chose qui m'a un peu manqué, avec un peu de nostalgie et de recul, c'est que l'été, tu peux un peu exagérer et romancer ce que tu fais dans l'année. Donc voilà, désolé à toutes les filles que j'ai rencontrées cet été, à qui j'ai fait croire que j'étais italien et que je travaillais dans l'import-export de burrata. Voilà, donc je vous laisse avec cette imitation italienne très moyenne. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Merci. Bonne rentrée à tous et à toutes et je suis ravi de vous revoir. Merci beaucoup.
Ouais, nous aussi.
Et Paul Mirabel, on te retrouve au Théâtre des Mathurins du mercredi au samedi à partir du 15 septembre et tu seras en tournée en 2022.
Ah ouais, faut y aller.
Et ouais, faut aller le voir.
Il y a quelque chose, puisqu'on parle de restaurants et de délicieux, il y a quelque chose qui est absolument incroyable avec la burrata et c'est le phénomène de mode. C'est-à-dire ce genre de choses, je sais pas, Daniel, je vais m'adresser à un vieux.
Oui, vas-y, je t'en prie.
Ça fait des années que c'est à la mode la burrata, non?
Non, mais nous, on a connu des années où ça n'existait pas, la burrata. Ça n'existait pas.
Moi, quoi. Petit, il n'y avait pas de burrata, il n'y avait pas de parmesan, il y avait tout juste, il y avait du pain.
Il y avait de la mozzarella qui ressemblait pas à du plastique.
Oui, non, oui. Mais c'est comme l'avocat, il y a eu un boom à un moment.
Non, mais l'avocat, ça a toujours poussé dans la nature. La burrata, c'est l'espèce de...
Sinon, moi, hier, j'ai mangé une pomme.
Alors, c'est comment? et de tourner, justement, au milieu, comme ça, de nourriture, d'abord, ça donne faim, ou au contraire, ça coupe l'appétit d'avoir autant de victuailles dans votre décor, sur Délicieux?
Alors, il n'y a pas eu de grands changements en ce qui me concerne, parce que je cuisinais déjà très très mal et je cuisine toujours aussi mal.
Non, mais sur le tournage, est-ce que ça donne envie de manger? Parce qu'il y a des buffets absolument incroyables, il y a des plats qui sont gigantesques.
Oui, alors il y avait du vrai et du faux.
D'accord.
En fait, c'est Thierry Charrier, le cuisinier du Quai d'Orsay.
Ok.
Excusez-nous du peu.
Chic.
Qui était le conseiller sur ce film, conseiller historique.
D'accord.
Parce qu'en fait, on cuisinait évidemment pas les mêmes produits. On vient de le dire, la burrata...
Et pas de la même façon, parce que visiblement, il y a beaucoup de beurre utilisé dans les...
Et pas de la même façon, même les légumes, enfin tout, la viande n'était pas coupée de la même manière, donc on a appris à faire tout ça, Grégory et moi, dans les restaurants du Quai d'Orsay.
D'accord,
ouais. C'était assez chouette, ouais. Et puis il venait sur le tournage, et pour répondre à votre question, on avait donc des plats qui étaient cuisinés par lui, des plats qui étaient cuisinés par nous, et des plats qui étaient factices, il y avait pas mal de choses... Rien n'a été gâché.
C'est
sur
du
ce
cinéma,
tournage.
C'est du décor.
Oui, on a quand même bien mangé, bien sûr.
Ce film, quand Éric Bénard vous en a parlé, comment il s'est exprimé en disant on va raconter l'histoire, la naissance des restaurants.
Oui, il voulait parler.
Il voulait aussi qu'il y ait cette intrigue, puisqu'il y a quand même une intrigue qui est liée à votre personnage.
Il voulait surtout parler de notre identité, en fait, ce qui nous fait nous et notre culture. Et comment on résiste aux influences de la culture anglo-saxonne, comment on tente de résister, c'est pas facile, à la culture anglo-saxonne. Et du coup, c'est en lisant un jour dans un livre d'histoire la création du premier restaurant, il s'est dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais pensé en fait à ça. Au fait que il y a quelqu'un qui a inventé ce concept-là, et c'est nous quand même qui l'avons inventé.
Et que le nom restaurant français est utilisé dans le monde entier.
Exactement.
C'est un mot français qui est utilisé pour la restauration, même quand elle est mauvaise à l'étranger. En tout cas aux États-Unis.
Et cette façon de dilater le temps, et de profiter de cet espace-là en partage, qui n'est pas un temps où on produit quelque chose, qui est l'inverse de la culture américaine, qui a un temps pour rien, pour nous, pour être
pour
ensemble,
plaisir.
Pour être simplement, et ça c'est on peut être fier, je trouve, d'avoir inventé cette chose-là.
Tout cas, Éric Bénard a réussi à conjuguer à la fois la notion historique, les décors, les costumes, la situation dans laquelle on se trouve, et même l'histoire, même si elle est déplacée géographiquement entre Paris et la province, il a réussi à le conjuguer avec d'abord une histoire humaine entre Grégory Gadebois et vous, et puis cette espèce de suspense, de quête, en tout cas, pour une, oui. au moins une justice, au moins une reconnaissance d'une souffrance. Et il y a cette vengeance qui reste en filigrane comme ça tout le long du film. À découvrir le 8 septembre, c'est au cinéma. À suivre dans cette bande originale, le héros du jour avec Daniel Morin, notre spécialiste Antoine Debecq, qui est l'auteur de La France gastronome, avec lequel nous parlerons tout à l'heure. Mais tout de suite, la musique dans la vie d'Isabelle Carré, ça commence par What is Love? What is love? Come on. Vous manquez de danser aussi ?
Oh mais carrément !
C'est vrai ?
Je peux plus aller à mon cours de danse africaine, là, j'en peux plus.
On est en 93, Isabelle, vous êtes nommée au César pour votre rôle dans Beau Fixe. Et c'est pas vous qui le décrochez cette année-là ?
Non, il me semble que c'était qui ?
C'est Romain Bourget.
Bah ouais, elle est mi-fauve.
Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est là en compétition ?
De toute façon, on va avoir rappelé des mauvais souvenirs pendant toute l'émission. Là.
Mais non, mais les Nuits Fauves, c'est un film culte.
Ouais. Non, mais c'est
et
sûr
puis
que...
la Roman qu'on découvre à l'écran, elle était complètement dingue. Non, je me suis inclinée. C'était tout à fait justifié.
Il y a d'autres moments, ça veut dire qu'il y a d'autres moments où on s'incline moins facilement quand on trouve que c'est pas complètement autant justifié.
Franchement, si vous allez au César et vous savez que voilà qu'il y a d'autres, si vous y croyez vraiment, je sais plus quel acteur d'ailleurs avait fait ce, l'avait reçu lui et avait dit qui va croire qu'il est vraiment le meilleur acteur de l'année.
Ouais. C'est joli, comme
et après il avait regardé la salle, c'est ah si j'en vois.
Quand même. Mais comment vivre dans un métier où à la fois on est dans le partage, dans l'écoute, dans le regard et on a besoin des autres pour exister parce que c'est justement ce sont des troupes que ce soit au théâtre ou au cinéma et se retrouver dans une situation de compétition, de comparaison et.
Moi j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Franchement ça m'est arrivé une ou deux fois et je vous dirai pas les noms, je vous vois venir où c'était un
si
peu
vous
tendu.
L'avez dit dans Beau Fixe, vous l'avez dit dans une interview que vous aviez découvert, vous étiez quatre comédiennes.
On était quatre comédiennes et fallait improviser et on était placées un peu au dernier moment par rapport à la caméra et c'était un peu à qui s'imposer, à qui allait prendre le plus de place. Moi,
c'est
j'avais
odieux.
Tendance à me coucher par terre.
C'est odieux, ça.
Non, mais c'est la vie, c'est-à-dire que c'est tout d'un coup qui occupe le terrain. Je crois que c'est ça.
Il avait envie de cette vérité du moment.
D'accord.
Et c'est vrai que quand on est quatre jeunes qui débutions, et oui, il y avait un petit peu certains moments, pousse-toi de là que je m'y mette, c'est que c'est clair.
Mais c'est vrai qu'il faut aussi raconter qu'il y a des actrices ou des acteurs qui savent, entre guillemets, l'expression prendre la lumière ou simplement d'un mouvement d'épaule vont attirer le regard de la caméra ou au contraire être au service de l'acteur à qui il donne un réplique.
Voilà, moi je suis persuadée que la bonne. Ce qui vous
juste
reviendra
milieu.
Le plus, en fait, c'est le juste retour des choses, il sera quand vous aurez cette générosité-là. Pourquoi ? Parce que quand on sait écouter et se renvoyer la balle, ça joue mieux, quoi. Ça joue mieux, c'est évident. Et quand on s'oublie aussi.
C'est comme au théâtre, ceux qui jouent avec les épaules en parallèle avec le public, c'est-à-dire face au public, pour parler au public.
Alors ça m'est arrivé aussi,
alors
ça.
Que le comédien derrière,
mais ça, faut peut-être expliquer aux gens, parce qu'en fait, le plateau est un petit peu en pente comme ça.
Ouais.
Puis quand on remonte. Quand on remonte, qu'on est censé être sur le côté à se regarder, et que l'acteur remonte, c'est-à-dire va vers
l'arrière
fond,
de la scène,
et l'autre se retrouve de dos, c'est mathématique. Oui, ça m'est arrivé aussi. Et dans ces cas-là, je me couche aussi, je ne bats pas.
Vous couchez beaucoup, faites gaffe. Hein.
Oui.
En 2009.
Ouais.
Déjà, ça va
moi,
une
ça
vitesse.
Saute, ça
oh
saute.
Là là, en 2009, vous écoutiez. En fait, elle a envie de danser.
Okay.
Si je vais à l'intérieur, je vais mettre du dance floor.
Ça, c'est tellement proche. Tellement proche, Nakash Toledano, et c'est la fin du film, en fait. Et,
des larmes.
C'est le générique.
Avec Vincent Elbaz, François-Xavier Demaison, Omar Sy, donc un film signé Nakash Toledano. C'est un couple de réalisateurs qui réussit toujours, je trouve, à aller chercher quelque chose dans la vie de tous les jours. À mettre tout d'un coup en lumière un élément de la société et à créer une vie autour. Eux aussi, quand on tourne avec eux, on est dans une bulle, on est dans leur...
On est dans leur famille, c'est tellement agréable, c'est tellement chaleureux. Pour vous raconter une petite anecdote, Audrey Dana était enceinte sur le tournage. Et moi, je viens leur dire aussi, à un moment, les gars, il faudrait que je vous parle. Tu vas pas nous dire que toi aussi t'es enceinte.
Ouais.
Ben si. Voilà, et c'était Mazel Tov. Et du coup, c'était voilà, le film le plus fertile de tout Paris.
Mais vous étiez enceinte avant de commencer le film. C'est pas parce que vous avez tourné dans le film que vous êtes tombée enceinte.
C'est ni Eric ni.
Non, parce que là, comme ça.
Non, c'était pas Eric ni Olivier, non.
Ouais, c'est un enfant qui est né sous une belle étoile, quoi, dans une famille de cinéma aussi. Et c'est des gens avec qui vous. Parce qu'on se dit qu'il y a la magie du tournage, et puis après.
Ben, on s'est recroisés de temps en temps, et par exemple, il m'avait demandé de les accompagner pour une campagne sur le don d'organes.
Oui.
Où de temps en temps, on a pu faire des déjeuners comme ça. Non, ce que j'admire énormément chez eux, c'est qu'ils n'ont pas du tout changé. Ils n'ont pas pas une seconde pris la grosse tête. Ça reste
alors
des
qu'il
gens,
y avait de quoi.
Alors qu'il y avait drôlement de quoi.
Non, mais non, il faut préciser.
S'il y en a qui peuvent se permettre
succès,
ça, c'est
quelques réussites.
Quelques succès, ouais.
C'est incroyable.
Incroyable.
Et puis surtout, tout le monde, toutes les opinions convergent pour dire du bien d'eux. C'est-à-dire que
c'est unanime. Alors soit tout le monde a peur, soit c'est vrai.
Non, non. Non, je crois qu'il y a vraiment une envie dans ce métier de jouer, de travailler avec eux, transmise par ceux qui ont vécu ce genre d'expérience. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des metteurs en scène ou des metteurs en scène avec lesquels des réalisatrices avec lesquelles vous aimeriez tourner et vous êtes justement passé à côté comme ça des rendez-vous que vous estimez
manquer. Il y en a
manquer.
Plein, c'est vrai. Je saurais pas dire. Là dernièrement, j'ai eu une rencontre fantastique avec un metteur en scène suisse, Lionel Bayer, et il y avait Tom Villa de chez vous qui était là sur le tournage, qui jouait le bras droit de Macron.
Donc là, vous avez tourné avec ce réalisateur. C'est pas un rendez-vous manqué.
Non, c'est pas un rendez-vous. Non, en fait, j'ai plutôt envie que ça continue. J'ai pas tant que ça retravaillé plusieurs fois avec des metteurs en scène à part Jean-Pierre Améris. Et là aussi, j'ai vu Profession du père. Si vous l'avez pas vu encore, courez-y, c'est sublime.
Vous le prenez pas mal que les réalisateurs ne vous veulent pas deux fois.
c'est pas un indice. On parlait de François Ozon tout à l'heure avec l'attaché de presse André Paul Ricci, parce qu'il travaille beaucoup avec François Ozon. J'aimerais bien retravailler avec. Peut-être. Il faut que je vais me remettre en question.
Est-ce que ça vous le dites? Est-ce que vous leur dites directement ou est-ce que vous profitez justement des interviews pour le dire?
Là, vous avez vu, j'ai fait passer quelques messages.
Est-ce qu'on envoie des textos? Est-ce qu'on envoie des mots, des mails en disant?
La seule fois où j'ai demandé à un metteur en scène une rencontre. C'était avec Assayas. J'étais rouge de honte, écarlate. Je regardais mes chaussures. Le rendez-vous a duré pas plus d'une demi-heure. Je savais pas quoi lui dire. Enfin voilà, je crois que c'est pas mon truc, quoi. J'ai du mal à solliciter. D'ailleurs, c'était un challenge qu'on s'était donné avec Benoît Poelvoorde pendant les deux tournages qu'on a eu la chance de faire ensemble. Enfin, que j'ai eu la chance, parce que je ne sais pas s'il peut dire ça de moi, mais moi, je peux dire ça de lui, en tout cas.
Il garde un mauvais souvenir de vous. Il en parlait la dernière fois. On l'a eu en fin de saison dernière.
Il a même dit qu'il ne voulait plus en parler.
On s'était donné un challenge. Lui devait m'aider à demander des choses et moi, je devais l'aider à faire confiance aux gens. J'ai réussi, je crois qu'il a échoué.
Cool. C'est un peu vos personnages des émotifs anonymes, en fait.
Ouais. Ouais, il y a de ça. Ça va beaucoup mieux, hein. 10 ans d'analyse.
En 2000.
30 ans de théâtre.
En 2018, vous écoutiez Keith Jarrett. Et le fameux concert Cologne avec le piano dans la neige. Qu'est-ce que la musique vous apporte? À part la danse.
Alors ça, ce concert à Cologne, tout. Enfin, j'écoute. Je sais que vous êtes un peu comme moi, et c'est pas pour rien si vous avez créé Taratata. S'il y a pas la musique, c'est comme
un réflexe.
Comme si je pouvais pas respirer, quoi. Ouais. Il manque vraiment un oxygène. Et quand j'écris, par exemple,
vous le faites en musique.
J'écoute beaucoup de musique. Là, j'ai choisi ça parce que vous m'avez dit 2018, c'était la sortie des Rêveurs. Et les Rêveurs racontent une partie de mon enfance et notamment ce concert à Cologne que j'écoutais quand j'étais gamine avec mon frère. On s'allongeait, là aussi, pardon. Je m'allonge beaucoup, c'est
j'ai
pas
l'impression,
aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Je retourne chez mon psy, en fait. Hein.
Ah bah non, vous allez vous allonger encore.
Ouais, c'est ça.
Et vous décrivez dans Les Rêveurs qui est sorti donc en 2018 une famille sous une forme fictionnée, mais qui se rapproche de votre expérience.
Bravo, c'est toujours bien dit.
Petite distance.
Oui.
Et en tout cas, l'enfant dans ce récit rêve lui d'une famille un peu plus banale.
Oui.
Et c'est de pas coller à ce rêve un peu de la famille classique qui fait que tout d'un coup, on se met aussi à raconter.
Oui, aujourd'hui, évidemment, je trouve que même si ma famille était un peu hors norme à ce moment-là, maintenant, Dieu merci, ça a évolué. Les familles homoparentales sont plus...
acceptées.
Sont mieux acceptées. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment tant mieux. parce que oui, je me souviens, en fait, si j'ai voulu écrire en partie, hein, pas que, mais en partie, Les Rêveurs, c'était aussi en réaction à la manifestation pour tous.
Oui, mariage pour tous.
En réaction au mariage pour tous. Qui disait beaucoup, en fait, ce qu'on entendait, c'était les enfants d'homosexuels souffriraient parce qu'ils seraient différents, parce que, bah oui, bah alors changez le regard que vous avez sur eux et puis tout ira bien, en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, et Les Rêveurs, effectivement, racontaient ça et
c'est un formidable succès. Et c'est un formidable succès. Ouais, ce n'est pas un règlement de compte.
Non. C'est pas un règlement de compte, au contraire, c'est bon, même pas, c'est envie de rendre visible aussi ces enfants-là. Ouais. Enfin, c'était qu'une partie du roman, mais ça faisait partie du challenge du livre aussi.
C'est une réussite. Parce que c'est vrai que... Si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, vous pouvez encore vous précipiter dessus, comme du côté des Indiens. Parce
qu'on ne les entend pas, les enfants d'homo.
On ne donne pas la parole.
On dit beaucoup de choses sur eux, mais on ne les entend pas.
Ça, c'est la spécialité aujourd'hui.
On va entendre Antoine Debecq. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour. Vous êtes historien, critique de cinéma et professeur à l'École Normale Supérieure, auteur de La France Gastronome. On parlait tout à l'heure de la naissance des restaurants. Isabelle Carré nous disait que c'était le Grand Véfour. C'est né comme ça, avant la Révolution ?
C'est né avant la Révolution.
Mais
c'est
alors, au Grand Véfour, vous avez fait la tête.
C'est un des restaurants
voilà, c'est
de
un
l'époque.
Des premiers, effectivement.
Il y en a eu 14, en fait.
C'est cet endroit du Palais Royal. Hein. C'est tout se joue là, effectivement, dans quelques centaines de mètres carrés.
Alors,
là.
Qui a l'idée de alors, dire, l'idée, on va réunir dans une salle des gens qui vont manger.
C'est un certain qui a été totalement oublié, Mathurin Rose de Chantoiseau. Qui en 1765 a l'idée de, alors c'est quelque chose qu'on voit dans le film, hein, de ce qui matérialise le restaurant, c'est la table individuelle. Ça, d'accord. C'est quelque chose d'essentiel.
D'accord.
Et l'idée que à une table individuelle, des gens vont pouvoir venir un peu quand ils le veulent, à pas d'horaire fixe, pour commander un certain nombre de plats qui sont annoncés sur un menu.
Donc on sort du banquet pour la table individuelle. Est-ce que c'est vécu comme une provocation à l'époque ?
C'est vécu comme une provocation parce que comment est-ce qu'on mange à l'époque à Paris ou en France ou en Angleterre par exemple, c'est soit dans des tavernes auberges avec une grande tablée collective avec des horaires fixes, un menu imposé, soit on peut aussi aller chez le traiteur et à ce moment-là on le traiteur n'a pas le droit d'avoir une table. Il y a des règlements qui sont extrêmement précis et ce qui est la provocation et qui va provoquer une sorte d'explosion, de révolution, vraiment, c'est aller contre les règles des corporations, des traiteurs, des aubergistes.
Mais donc c'est quoi,
c'est grâce à Turgot, le ministre de Louis
absolument,
XVI,
hein,
qui
oui,
a aboli,
fait.
Qui était une espèce de Macron de l'époque, qui a aboli les corporations. Et qui faisait
et Mathurin Rose de Chantoiseau est d'ailleurs pas un cuisinier, c'est un économiste.
Mais est-ce que c'est le début de la Révolution?
Ça accompagne la Révolution.
D'accord.
Ça accompagne la Révolution au sens
changement
où,
des mentalités.
Voilà. C'est-à-dire, on passe d'une élite à une autre, des habitudes d'une élite, l'élite des nobles, aristocrates, à l'élite bourgeoise.
Et voilà, paradoxalement, est-ce qu'on revient pas vers des restaurants où on est avec des grandes tablées,
en
étant assis avec des personnes que l'on ne connaît pas, mais à la même table?
Absolument. Je pense que la création des restaurants à la fin du XVIIIe siècle est un moment qui, à la fois, annonce des choses d'aujourd'hui, mais aussi est très contradictoire avec des choses d'aujourd'hui. Et le film le montre bien. C'est-à-dire que ça ne se passe pas en province, mais à Paris. C'est moins l'idée de partager le repas avec tout le monde que de passer d'une élite aristocrate à une élite bourgeoise. Et puis, c'est quelque chose qui est très beau dans le film, mais qui ne participe pas à l'histoire, c'est la présence des femmes. Les femmes ont un rôle dans le restaurant, hein, c'est celui d'accueillir. Ça, c'est quelque chose de très important. Diderot le raconte bien. Il adore aller au restaurant parce qu'il aime à être à une table tout seul, manger ce qu'il a envie de manger et être servi par une jolie femme. Bon, c'est quelque chose qui est aujourd'hui quelque chose qui est difficilement entendable. Et donc, c'est tout à fait logique. Je veux dire, le film, il est fait pour des spectateurs d'aujourd'hui, pas pour des spectateurs de la rentrée de 1765, hein, que Isabelle Carré veuille participer de la fabrication de la cuisine.
En tout cas, c'est passionnant et c'est tout aussi passionnant de vous lire. C'est aux éditions Payot et vous avez publié La France Gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire. Merci Antoine d'être venu à notre table.
Merci beaucoup.
Passez une bonne journée. Le héros du jour, c'est Monsieur Daniel Morin.
Ça fait presque 2 ans maintenant que la vie est dure, que la vie ne fait pas de cadeaux, que la vie est une vraie salope. Et pourtant, il existe des gens qui cherchent le bien. Oui, il en existe. Des gens qui cherchent des solutions pour qu'un monde meilleur voit le jour. Que l'espace d'un court instant, nous puissions sortir la tête des ténèbres pour laisser passer le vent de l'espoir dans nos cheveux, enfin si on en a, dans nos cheveux figés par la nostalgie du passé, l'ennui du moment et l'angoisse du futur. Et parmi ces gens, il y a un homme, un seigneur, fort comme un bûcheron grec qui arrache à la bouche des oliviers, beau comme un lutteur turc qui passe de l'huile sur son corps, innocent comme un enfant qui fuit Kaboul. Cet homme, c'est Pascal Pro. Oui, aujourd'hui, mon héros, c'est Pascal Pro. Pascal Pro, super-héros de la planète CNews. Pascal qui, depuis hier, est vilipendé pour avoir suggéré concernant les dealers marseillais qu'on les envoie au bagne. Marseille, ville martyre. Marseille, ville ghetto, ville qui sent la sardine et le pento. Pascal a suggéré le bagne pour les voyous. Et alors, a-t-il eu tort? Ce matin, devant la glace de sa salle de bain, je l'imagine, mon Pascal en train de faire le point tout en se rasant. J'exagérais hier avec mon histoire de bagne? Bah non, c'est une bonne solution, je trouve. C'est une bonne idée, le bagne. J'en ai plein de bonnes idées, moi, quand même. La crucifixion. Pourquoi on relance pas la crucifixion? Pas la peine de mort, mais une petite crucifixion de 20 minutes devant les commissariats pour les voleurs de scooters. Ça leur passerait leur vie de chourer un trou dans chaque main. Et si on mettait des quotas pour avoir plus de gens un peu plus blancs, ce serait pas con non plus. Il y en a que pour les races à couvert dans le cinéma. Pourquoi on va pas plus souvent Isabelle Carré?
Ah non!
Elle est bien, Isabelle Carré!
Non, pas comme ça!
Elle est bien blanche! J'adore les films d'Isabelle Carré, moi. J'en ai vu aucun, mais je suis sûr qu'ils sont super. Alors, pareil pour les chanteurs. Il y a que pour les rappeurs, aujourd'hui. On pourrait pas avoir d'artistes plus souvent, genre Isabelle Carré. Elle chante bien, Isabelle Carré. Elle chante blanc. Mais je connais pas ses chansons, mais elles sont sûrement super. Dans le sport, dans le foot, on voit que des individus issus de l'immigration exotique. Merde, à la fin. Pourquoi on fait pas plus jouer souvent Isabelle Carré? Tu laisses partir Mbappé chez les joueurs de Castagnette.
Pas la Coupe du Monde, hein.
Mais si, il faut faire confiance. Tu prends Isabelle Carré comme avant-centre au PSG. C'est comme la parité. Ça fait chier la parité. Des bonnes femmes partout, c'est l'enfer. Y a pas qu'Isabelle Carré quand même. Elle nous emmerde celle-là à la fin. Oui, Pascal Pro est aujourd'hui mon héros. Pourtant, j'ai hésité avec un autre penseur. Comme le rappelait très justement Morgane ce matin sous la douche. N'oublie pas, chérie, aujourd'hui c'est cool, c'est l'anniversaire d'Éric Zemmour.
Mais non, si. Mais tu peux pas finir là-dessus.
Ah, si.
Mais c'est pas possible. Merci. Gargamel, mais non.
Et c'est malheureusement tristement vrai, ce jour.
Mais non, c'est pas possible.
Bon, et il est là.
Non plus, ça va pas être possible. La musique, tout à l'heure, vous disiez que vous écriviez en musique. Est-ce que vous écoutez de la musique aussi pour rentrer dans un personnage, dans une humeur, dans une émotion particulière sur un tournage?
Là, il faudrait une musique, oui, un peu plus joyeuse.
Non, je sais pas, non, mais est-ce
pour transiter.
Est-ce que vous en servez ou pas?
Non.
Oui,
je m'en sers beaucoup, oui. Oui, je m'en sers beaucoup. C'est une façon de me concentrer et puis d'être un peu dans ma bulle, mais sinon, je me concentre jamais, en fait. Ça m'angoisse. Par exemple, rester 2-3 heures dans ma loge avant de jouer au théâtre, j'ai l'impression que je...
Vous tournez en rond ?
Oui, je tourne en rond, ça fait monter la pression, alors que si j'arrive un quart d'heure avant, j'ai l'impression d'arriver avec toute ma vie et ma journée, et puis voilà, et j'arrive...
Et on va rappeler que dans la famille, la musique est extrêmement importante, évidemment. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas embêté avec ça. Qu'est-ce que j'aime cette chanson ?
Je suis trop contente de l'entendre.
Mais vous pouvez être fière.
Mon frère chéri.
Elle est culte, cette chanson.
Ouais.
Elle est culte. C'est Benoît, hein, c'est ça ?
Benoît, oui.
Votre frère qui
Lily a Cube.
Fait cette chanson. Ah, on la laisse encore un peu, mais toujours de bonne humeur, ça va.
Et du soleil quand on mettra les voiles.
Non.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Ouais, avec Lila Cadeau, mon ami, avec Morgane Cadignan, Paul Mirabel, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et Isabelle Carré.
Oh, je suis épuisé.
Délicieux.
C'est la rentrée.
Délicieux d'Éric Bénard.
On a commencé hier.
En salle mercredi prochain.
Éric Bénard, que vous avez rencontré comment? Parce que oui, vous avez déjà bossé avec lui, mais la rencontre s'est faite par...
On avait un autre projet avant qui s'est malheureusement pas fait, qui s'appelait Le Petit Homme, qui était un film qui se passait pendant la guerre avec Josiane Balasco. C'est un très beau projet qui s'est pas fait. Et pour se venger, du coup, on en a fait un autre.
Deux autres. Avec Grégory Gadebois, Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédé. Vous aviez déjà tourné avec chacun des trois ou...
Bah, Guillaume, il était dans l'esprit de famille. Ouais. Et puis en plus, on a commencé au théâtre ensemble quand on avait 20 ans.
La semaine dernière, Benjamin Laverne.
Benjamin Laverne, j'avais jamais travaillé avec lui, il m'a beaucoup impressionné, je dois dire.
Est-ce que la scène, on va rien révéler encore une fois de l'intrigue, mais est-ce que la scène du duel de regard qu'il y a à un moment donné dans le film entre Benjamin et vous était particulière à jouer, à interpréter, ou au contraire extrêmement confortable?
J'étais sidérée par l'émotion en fait qu'il a réussi à faire sortir, en même temps que la haine, la colère, la violence. Il y a une espèce de mélange de, et je le trouve très très fort. Je l'avais déjà vu au théâtre évidemment plein de fois, à la Comédie Française, et aussi dans le film de Nakash Toledano où il s'envole, où je l'avais trouvé dingue. Mais
il est bien odieux aussi.
Ah, c'est le sens de la fête.
C'est un acteur génial.
Lorsque l'on sait avec qui on va travailler sur un film, on commence déjà à anticiper. On a des, j'imagine que vous avez tous des rumeurs, des oui-dire, il est sympa, il est pas sympa, ça va être difficile, ça va être
top. Mais ça, c'est souvent. Moi, je m'attache pas tellement à ça parce que ça peut mal se passer avec quelqu'un et très bien avec un autre.
Oui, mais c'est un bout de vie de plusieurs semaines que vous partagez sur un tournage. Donc comment le subir lorsqu'on ne s'entend pas avec les autres? Que nous, on voit ici, c'est le cas à l'année.
C'est ça, oui.
Non, mais Isabelle s'entend avec tout le monde, je crois.
L'avantage, c'est que nous, ça durera que 2 mois, alors que vous, c'est toute l'année.
Belle réponse. Délicieux, le film est au cinéma le 8 septembre prochain, mercredi prochain. Maintenant, il est vraiment là, prêt pour vous. Monsieur Tanguy Pastureau.
Ah bon ?
Je sais, tout le monde s'est lassé de la politique, mais moi, ça continue à m'intéresser. Au printemps, j'ai même voté au régional. Oui, non. C'était moi. J'ai eu la médaille du mérite pour ça. Et Jean Castex a voulu qu'on se paxe. J'ai dit non, bien sûr, parce que j'ai peur des gens qui ont un accent. Ça me donne l'impression de vivre dans un vieux sketch de Tex. Je me souviens, le jour des régionales, je suis entré dans le bureau de vote. C'était au fond d'un couloir sombre, avec un type qui attendait à l'entrée. J'ai cru que j'étais mort, que c'était l'entrée du paradis, que j'allais retrouver Elvis, Casimir, Sylvia Christel et le bronzage d'Amélie Nothomb. J'ai dit au type « Bonjour Saint-Pierre ». Il m'a répondu « Non, non, moi je travaille à la ville, je suis Mohamed ». J'ai cru que Dieu s'était fait grand remplacer. Direct, j'ai appelé Eric Zemmour, dont j'ai le 06 depuis ma participation naguère à l'émission Zemmour et Nolo, mais pas de réponse. Il était occupé à récupérer chez Lacoste tous les polos orange délaissés par les gens qui ont du goût. Tout ça pour vous dire que j'aime la politique. J'ai déjà hâte d'être le 10 avril 2022 pour voter. On est bien dans l'isoloir. C'est comme une cabine d'essayage chez Devred, sauf que personne ne retire ses chaussures, donc ça sent pas les pieds. Ça sent parfois l'urine, parce que ce sont les personnes du 4e âge qui votent. Mais les odeurs d'urine, ça me dérange pas. Je vis à Paris. Cette ville est plus sale qu'une pensée de Francis Lalanne. J'arrive maintenant à distinguer 7 odeurs d'urine différentes. Je peux dire, ah, ça c'est un rat. Ah, ça c'est un humain. Ah, ça c'est un humain qui a mangé des asperges. Tout à l'heure, aux toilettes d'Inter, je suis entré, la porte d'une cabine était fermée, j'ai respiré, j'ai dit, ah, ça c'est Daniel Morin. Salut Daniel. Une petite voix m'a répondu, non, même c'est Laurence Bloch, la patronne de la radio. Mais avec Daniel, on partage la même odeur d'urine, car c'est mon fils caché, c'est pour ça qu'il est sur la grille depuis septembre 91. On a chacun une odeur d'urine particulière. C'est pour ça que le passeport, c'est obsolète. À l'aéroport, on devrait tous pisser sur le comptoir Ryanair. En plus, ça permettrait de leur dire ce qu'on a vraiment pensé du vol. Donc, j'aime la politique, par contre, je déteste le principe des primaires. La primaire est le concept le plus con du monde. On prend des gens d'un même parti, ils disent les pires horreurs les uns sur les autres, ce que l'électeur retient, c'est qu'ils sont tous nuls, et donc ils votent pour quelqu'un d'un autre parti. Prenez Europe Écologie Les Verts, le truc foutraque des gauchistes en lin. Leur star, c'est Yannick Jadot, un grand type bio élevé au grain. Il a la même vie qu'une poule qui a signé chez Naturalia. Mais au lieu de dire, ouais, il est à 8% dans les sondages, on va le pousser pour qu'il gagne, et dans le jardin de l'Elysée en 2022, on fera de l'éco-pâturage, il le confronte à 3 inconnus. Éric Piolle, maire de Grenoble, alors passé le panneau de sortie d'aglo, personne ne le remet. Delphine Bateau, ancienne ministre de Hollande, c'est dire. Et Sandrine Rousseau, dont on parle encore moins que Carole Rousseau, que c'est 8, pourtant elle est planquée au fond de sa grille. Hein, la malheureuse lance des reportages sur les toxicomanes bulgares prostituées sans bras. Et comme Jadot a le même leadership que Bruno Vandelli dans Popstar en 2002, quand il a trouvé comme nom de groupe Quadricolore, et que Valérie Zeitoun a répondu au ouais, ta bouche, on va les appeler Watford, et ben il s'est laissé bouffé. C'est absurde le principe des primaires. Je veux dire, c'est comme si Nagui, votre nouveau chosier artiste, France TV vous avait dit, Loustig, il est pas mal ton truc, mais pour l'animation, on va départager entre toi, Olivier Mine, Arlette Chabot et un hologramme de Léon Zitrone. Et prenez les Républicains, le parti de la droite modérée, qui représente Peanuts, hein, comme on dit chez MMMs. Parce que les électeurs électeurs sont tous soit partis chez Macron, soit chez Le Pen. Eh ben, eux aussi font une primaire. Et ça se bouscule. Il y a Valérie Pécresse, l'ancien mannequin Cyrilus, hein, qui se mais prend non. pour Merkel depuis qu'elle a compris qu'elle était une femme. Philippe Juvin, qui est à la fois maire dans le 9-2 et chef des urgences à l'hôpital. Parfois, il confond ses activités en conseil municipal. Le premier mec qui s'endort, il se précipite sur lui et entame un bouche à bouche. Là, il y a toujours un conseiller pour dire « Yes, la soirée commence !» Et ça finit. Bon, ça finit en orgie. Il y a Éric Ciotti, il est compact, mais très dur. C'est une sorte de petit pimousse. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas quel goût il a. Il faudrait demander à un ou une amie.
Non.
Michel Barnier, un hypnotiseur. Dès qu'il parle, tout le monde pionce. Si un jour, il visite la cabine de pilotage d'un A320, dans les 7 secondes après qu'il a dit bonjour, le truc ira se cracher sur une montagne. Et Xavier Bertrand, mais qui ne participera pas à la primaire. Lui, il a le charisme d'une clé anglaise. Hein, quand Chantal Goya le voit à la télé, elle dit « Mais que fait mon pandipanda au JT avec une chemise ?» Mais il se prend pour Jésus. Hein, ça va se terminer comme Kanye West. Un dimanche à 14h, Xavier Bertrand va lâcher sur les plateformes un album d'une durée de 2h avec featuring de The Weeknd. Hein, ou de Bruno Jeudi de BFM. C'est The Weeknd, mais quand on a posé une RTT en plus. Hein, lui a compris, Xavier Bertrand, qu'un parti a besoin d'un leader naturel. Mais son erreur, c'est de penser que c'est lui. Enfin, sachez qu'au Parti Socialiste aussi, il va y avoir une primaire. Alors d'abord, pour départager les militants, hein, parce qu'ils sont quatre, Martine Sanchez va être opposée donc à Jackie Durand, Babacar Fernandez et Sylvie Martin. Voilà. Ensuite, entre candidats, et là ça va être simple parce que de déclarer, il y a juste le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Hein, Ségolène Le Foll, elle, donc n'y va pas. Et en non déclaré, il y a Anne Hidalgo qui stade tellement qu'elle va finir ostéopathe, donc maire de Paris. Alors attention, c'est une primaire fermée, c'est-à-dire que seuls les militants peuvent voter. Vu le nombre qu'ils sont, ça va être moins spectaculaire que l'élection des délégués de classe de la 3e B. Et on sait déjà qu'ils vont choisir Hidalgo, vu que Le Foll est sympa, mais on sait plus qui c'est. Alors qu'Anne Hidalgo est très très célèbre. Enfin, moi, dès que je prends un taxi, on me parle d'elle. Jamais en bien. Elle est moins populaire que Mélenchon au Lions Club de Nice, mais elle a sa petite notoriété. Bref, laissons-les tous s'éliminer entre eux et vivons nos vies tranquilles. Nagui, pour l'animation de The Artist, vous débattrez ce soir à 19h contre Sophie Davant.
C'est ça. Merci, Tanguy Bassiro.
The Artist qui...
The Artist qui démarra le 11 septembre, mais il y a un autre événement le 11 septembre.
Oui, il y a Tanguy qui sera à Nantes. Enfin, Tanguy, tu peux pas nous faire ça.
Je regarderai sur mon iPhone en même temps. Vous savez, je connais mon téléphone.
En tout cas, on va reparler de ce film délicieux qui est au cinéma à partir de la semaine prochaine avec Grégory Gadebois, Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédec et Isabelle Carré qui est notre invité. Film qui a été tourné...
Dans le Cantal.
Oui, mais il y a combien de temps?
Dans le Cantal.
Il y a
presque 2 ans maintenant.
C'est ça qui est dingue. C'était dans l'exercice de la promotion. Ouais, vous devez vous...
Le film a été programmé 4 fois.
Mais non.
Mmh. Mais maintenant, c'est le bon moment, je pense.
Il fallait. On trouve d'ailleurs, dans les notions de partage et de plaisir et de bande de potes, on retrouve aussi ce qu'il y a dans le plaisir d'aller au cinéma aussi, entre potes, de prendre un verre derrière, de discuter, d'échanger. On est dans le même genre de
Ce que nous disent les gens à l'avant-première, c'est qu'après le film, ils ont très très faim. Donc en fait, là, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on incite les gens à aller au cinéma
et aller
au restaurant après.
Il y a justement des remarques qui vous ont surprise dans ce que on vous a dit à la sortie de l'avant-première.
Tout le monde parle de ces échos, en fait, ces résonances qu'il y a avec ce qu'on est en train de vivre.
Donc c'est très actuel, vous voulez dire?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on le dit beaucoup, hein, que voilà, quand on joue du Shakespeare ou du Molière, à quel point ça résonne et à quel point c'est moderne. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment vrai.
Mais dès l'instant où il y a de toute façon tout ce qu'il y a dans la nature humaine et tout ce que l'on ressent dans notre société,
ça trouve écho, quelle que soit l'histoire. Ouais. De Grégory Gadebois et Benjamin Laverne, ce rapport Maître Valet, c'est le même que le patron l'ouvrier, et on est encore dans ces tensions-là, plus que jamais peut-être même.
Ça s'appelle Délicieux et c'est un très bon film, bien interprété, et qui sera le 8 au cinéma. Dans l'actualité culturelle, Leïla Kadour-Bodadi.
On continue de parler de restaurants dans cette émission. Je vous donne le nom d'un restaurant que vous connaissez peut-être, la Casa Bonita. Ça vous dit quelque chose?
Non, mais ça donne envie en tout cas.
C'est un resto qui apparaît dans une série et qui vient d'être racheté par les auteurs de cette série. Casa Bonita, ça vous dit quoi?
Emily in Paris?
Non. Alors c'est une série animée que vous connaissez tous.
Et c'est jeune?
Générique? Ah. Si, mais vous connaissez que ça. South Park, absolument.
C'est le restaurant de South Park qui a été racheté par les créateurs de la série. Et c'est dans un épisode où ils le mettent en scène que ce resto est passé un peu à la postérité, qui a permis donc de devenir une sorte de lieu emblématique à Denver.
Parce qu'il existe.
Il existe. D'accord. Et ils se sont dit, allez, bon, ils l'ont retranscrit plutôt fidèlement dans les dessins, mais ils se sont dit, voilà, le kiff absolu, ce serait de le racheter, qu'il soit vraiment à nous. Est-ce que vous avez, en parlant de restaurant et parlant de délicieux, un casting idéal lors d'un dîner, et ce serait où et avec qui? À la Casa Bonita.
J'ai réfléchi à ça avant, ouais. Là, attention.
Un endroit où vous aimeriez
si
inviter
c'est pas,
une...
Si c'est pas où, alors quel menu peut-être?
Mais puisqu'on parle de chef femme, j'aime beaucoup Hélène Darroze.
Ouais.
Oui, voilà, donc oui, vous prenez sobre, quoi. Vous prenez...
Voilà, tant qu'à faire.
Oui,
hein,
bah si... oui, évidemment.
On parle de rêve.
Ouais.
Voilà.
Et toi, avec qui? Étoilé, chef étoilé, d'accord, Hélène Darroze. Vous avez droit à 4 invités.
Ouais.
On parlait de Mbappé tout à l'heure. J'aimerais bien qu'il y ait Mbappé, comme ça peut-être qu'il partirait pas, qu'il resterait au PSG.
Rien pour dîner avec vous.
Ouais.
Ouais. À ce moment-là, c'est un tête-à-tête qui va vous...
Je me la pète un peu, mais bon.
fan de foot, hein, vous aimez.
J'essaierai de le convaincre. Ouais. C'est-à-dire, j'ai un fils qui est supporter du PSG, et d'accord, ça, du coup, ça m'a gagné.
Donc, il va vivre avec tension les dernières heures.
Comme ça, le sport, ça vous gagne. Moi, ça m'a gagné. Ouais.
Jusqu'à minuit, vous voulez savoir s'il reste ou pas au Paris Saint-Germain.
Exactement.
Et trois autres convives, ça serait qui?
Ah bah, Messi, Neymar et Di Maria.
Toute l'équipe, ça.
On va faire sobre.
Un auteur, une autrice?
Ouais, un auteur. Alors, Lucia Berlin, mais elle est décédée, mais bon, on rêve. Hein.
On peut.
Ouais. On rêve. Qui est un auteur que j'ai, une autrice que j'ai découvert, voilà, que j'adore. D'ailleurs, je vous encourage à lire ses livres. Pour moi, c'est une espèce de Brautigan féminin. Mm-hmm. Pour ceux qui aiment les nouvelles, ouais, et qui aiment Brautigan. Ouais. Qui parle tout le temps de sa vie et qu'elle a vraiment eu 1000 vies, des vies folles. C'est très, ouais, c'est très chouette à lire. Journal d'une femme de ménage. Par exemple. Et sinon, un troisième, je sais pas, j'ai parlé de beaucoup m'allonger, donc, et de retourner chez ma psy, je vais en avoir besoin. Donc, j'inviterais bien Boris Cyrulnik, par exemple.
Ah ouais, chouette. Belle table. Belle table.
Sans rentrer dans un domaine trop personnel, trop particulier, est-ce que vous parlez beaucoup de votre psy, est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans votre vie professionnelle?
La psychanalyse?
Ouais.
Ou...
Oui.
Oui. Ah bah oui, mais ça m'a donné confiance. Petit problème, on en parlait hors antenne, de légitimité, qui est toujours un petit peu là.
Ouais, qu'on a tous. Hein.
Voilà, et le fait de se dire que finalement c'est pas ça le problème, c'est un peu ce que raconte d'ailleurs Délicieux, quoi. C'est vas-y, essaye. Chacun a son délicieux, chacun peut créer quelque chose et c'est pas.
Il a le droit.
On a le droit.
Rien n'est interdit. Ouais.
Mais on a besoin quand même que quelqu'un vous encourage, que quelqu'un vous regarde. On a tous besoin que quelqu'un nous regarde avec bienveillance avant de se lancer. Voilà et ma psy, en l'occurrence, m'a donné cette force-là, c'est sûr. Ouais.
Parfait.
Un mot de danse. Je sais que vous aimez ça et que vous pratiquez la danse.
Africaine.
Ouais. Une annonce. Le chorégraphe.
Le soukous, le dambélé. Ouais.
Eh bien, le chorégraphe Angelin Prège-Locage travaille à la mise en scène d'un ballet à Bordeaux avec un musicien français très, 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 très connu. Qui est ce musicien, d'après vous?
Renaud Capuçon.
Non. Je vous donne un indice.
Attends, est-ce que c'est moderne ou classique?
C'est contemporain.
Et
c'est très très grand public.
Un musicien très grand public.
Ouais.
Christophe Maé.
Violet? Non.
Louis Bertignac?
Non. On ne trouverait jamais.
On ne trouverait jamais.
Mon indice, on ne connaît pas sa tête.
Ah, Daft Punk.
Maître Gims.
Absolument, et c'est Thomas Bangalter, ouais, des Feux Daft Punk, qui sera associé au chorégraphe.
On ne sait pas si c'est le Daft ou si c'est le Punk.
C'est ça. Je pourrais même pas les identifier, je pense. Donc il va s'associer au chorégraphe Angelin Prège-Locage pour une œuvre intitulée Mythologie.
Génial.
Qu'on pourra voir dans un an à l'Opéra National de Bordeaux. Il y aura une vingtaine de danseurs de cette compagnie, du ballet aussi de l'Opéra de Bordeaux, pour proposer en effet des grands tableaux sur les grands thèmes de la mythologie grecque et antique. Donc ça, c'est une idée de spectacle. Est-ce que la danse fait partie, en cette rentrée, des spectacles que vous repérez? Vous avez des abonnements dans les grandes institutions parisiennes pour aller voir des chorégraphes en particulier? Est-ce qu'il y en a un que vous suivez, quoi qu'il advienne?
Ben malheureusement et heureusement, je reprends la dégustation au théâtre.
Ah oui.
Et donc je ne vais pas pouvoir aller voir mes collègues. Ni de chorégraphe, ni de danseur, ni...
Sauf s'il y a des corpos, les fameuses corpos.
Sauf
qui ont
y a
lieu
des corpos,
le lundi.
Voilà, mais a priori, c'est pas, c'est le seul moment, effectivement, où on peut aller voir les copains.
Donc vous voyez peu de choses, finalement, en danse.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Pourtant, j'adore ça.
Oui, mais enfin, entre aimer danser et aller voir des spectacles, il y a peut-être quelque chose qui est plus frustrant. J'imagine que ce que vous aimez aussi, c'est donner de vous, transpirer, bouger et être en transe.
J'essaye souvent de mettre des petites chorégraphies dans les spectacles. J'avais quand même réussi à mettre de la danse africaine dans un spectacle sur Victor Hugo, ce qui n'est pas forcément évident.
Pas le premier truc qui vient.
C'est pas le premier truc qui...
En tout cas, il y a plein de choses à voir en ce moment. Il y a le festival d'automne à Paris et l'offre est toujours complètement folle. Donc il y a vraiment le choix.
En tout cas, mon préféré chorégraphe, pour répondre à votre question, c'est Matt Seck.
Ouais.
Mais qui a décidé de ne plus se produire, de ne plus voilà, et ça c'est dommage. Mais il avait dit cette très belle phrase, être chorégraphe c'est écrire sur de l'eau. Mm-hmm. Et donc il ne veut plus qu'on produise ses spectacles parce qu'il veut que les nouveaux chorégraphes le remplacent.
Ouais. Laissez la place.
Laissez la place, ouais.
Vous avez évoqué la dégustation, justement, cette pièce écrite et mise en scène par Yvan Calberac, qui était au Théâtre de la Renaissance. Vous la reprenez au théâtre.
On la reprend au Théâtre de la Renaissance, oui.
Et paradoxalement, ça va être un film aussi. Enfin, paradoxalement.
Ça va être un film qu'on a tourné.
C'est rare que les deux arrivent en même temps, en tout cas.
Ouais, moi, c'était la première fois, en fait. C'est la première fois que j'ai...
Généralement, il y a un film quand la pièce s'arrête ou... Où il y a une pièce qui revient pour relancer, comme on en parlera demain avec le Papy fait de la Résistance, où on revient à la pièce de théâtre après que le film ait été un succès il y a des années. Mais là, pratiquement les deux en même temps. C'est-à-dire, le film a été tourné, ça y est.
Le film a été tourné et ça a été un enchantement.
Toujours avec Bernard Campan,
avec
le casting est resté.
Toute l'équipe, Mounir Amamra,
parfois ça change,
Éric Zellar, ouais. Toute l'équipe, ouais.
Et c'est Yvan Calberac qui a réalisé.
Et c'est Yvan Calberac et ça a été un grand, 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 grand bonheur, d'autant plus qu'on avait été empêchés juste avant de tourner. On n'avait pas pu tourner, la tournée avait été annulée à cause du Covid. On n'avait pas pu faire la reprise qui était déjà là au Théâtre de la Renaissance. Même un jour, c'était terrible, on est parti de la représentation, on nous a appelé, on nous a dit bah voilà, vous avez laissé vos affaires mais vous ne reviendrez pas, vous ne jouerez pas, c'est fini, le théâtre ferme. Voilà, c'était le
violent,
confinement et c'était très violent. Et du coup, là, on se venge et on va prendre un plaisir fou à se retrouver au Théâtre de la Renaissance.
Vous retournez dans une loge qui vous attend, qui est prête.
Exactement,
avec vos affaires
c'est
qui
fou,
sont
hein.
restées dedans.
Ouais.
Mais non.
Si, bah si. Ouais, ouais. Et le Théâtre de la Renaissance n'a jamais aussi bien porté son nom.
Et qu'est-ce qui change donc entre le film et la pièce?
Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, mon personnage Hortense de la Villardière, on va la voir faire sa PMA. On va la voir au Secours catholique quand elle distribue les repas et qu'elle se lie d'amitié avec les gens qui... Ils viennent dîner là-bas, elle leur offre des bonnes bouteilles de vin. Voilà tout ce qu'on voyait pas au théâtre parce qu'il y a un lieu unique, évidemment, on la voit avec sa mère.
C'était évoqué voilà. Au théâtre, mais pas vu. Donc on est d'accord, vous faites délicieux au restaurant, vous faites dans une cave à vin dégustation. Il y a un moment où ça va se voir que,
que j'aime
vous
ça.
Avez un rapport à la nourriture et au vin assez particulier.
J'ai oublié de citer Olivier Clavry, j'ai l'esprit d'escalier et je voulais citer tout le monde. Voilà, qui fait partie aussi de la troupe. Et on est tellement, tellement bien ensemble que je ne peux pas ne pas le citer.
On ne peut pas ne pas parler également de l'écriture. On a évoqué la sortie en livre de poche du côté des Indiens. Il y a également votre premier livre jeunesse qui s'appelle La mère dans son jardin. Mère, M-E-R.
Oui.
La mère dans son jardin.
Il va sortir au mois de novembre.
Voilà. Et y a-t-il un nouveau roman ou un recueil de nouvelles?
Oui, qui est en gestation. Enfin, j'ai fait la V1, comme on dit, la première version. Mmh. Et là, je travaille. Il y a beaucoup de travail encore, mais j'ai toute mon histoire, en tout cas.
Alors, sans trop en dévoiler, quelle est l'histoire?
Ça parle du choix du champ des possibles, des choix qu'on fait dans nos vies et de ce que ça peut engendrer comme transformation de changer de vie.
D'accord, très voilà. Bien. Non, mais c'est toujours très, très profond et très touchant. Ce qui est fort, c'est que vous trouvez toujours des sujets qui trouvent écho dans un petit bout de nous quelque part. Donc ça donne envie et on a hâte de vous lire.
Merci.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, évidemment. Désolé pour tous les comédiens qui nous disent ici même et fort souvent... Molière, mais c'est tellement actuel, c'est dingue, mais tellement visionnaire ce mec. Ah ben Isabelle Carré était claire ce matin. Vous dites n'importe quoi les gars, c'est tellement cliché. Désolé pour tous ceux qui ont commencé à chanter Joyeux anniversaire pour rendre hommage à Eric Zemmour et qui ont été coupés dans leur élan par Nagui. Désolé les gars, mais en même temps, je dois vous dire que
Nagui s'en veut. Il a prévu pour se racheter de faire un spécial Taratata et Courtoisie avec le trio Robert Ménard, Florian Philippot et Jordan Bardella qui reprendront tous les succès de la compagnie créole. Bien vu, Nagui. Exactement. Désolé pour Isabelle Carré qui nous a mis l'eau à la bouche durant toute l'émission en parlant de restaurants, de gastronomie. À cause des restrictions budgétaires, je ne peux que vous inviter ce midi à la cantoche de Radio France. Au menu, ratatouille de quinoa, émulsion de radis, c'est vegan. C'est un peu dégueulasse, je vous préviens. Alors par extension, désolé pour Nagui, je te préviens, si Isabelle refuse de venir manger avec moi, c'est toi qui t'y colle. Mais attention, j'ai deux places dans le carré VIP.
Oula.
C'est la table propre. Alors, désolé enfin pour Riyad Satouf, l'autre invité vedette de la bande originale qui m'a appelé à la pause en pleurs pour me faire part d'un cauchemar dans lequel il entendait ça.
Et notre invité sera Isabelle Carré.
Et non.
Isabelle Carré. Et notre invitée, la douce, la brillante Isabelle Carré.
Je comprends, c'est horrible comme sensation. Et pourtant, il y a pire.
C'était un plaisir de vous recevoir en tout
moi
cas,
aussi.
Isabelle.
Merci.
Et bravo.
Donc je reviens le mois prochain.
Bravo.
Vous revenez quand vous voulez.
On est sociétaire de l'émission ou on l'est pas.
Complètement.
Absolument. On est talentueuse ou on ne l'est pas. Et pour clore, puisque tu faisais une vanne sur la compagnie créole, le compositeur de la compagnie créole et le papa de Thomas Bangalter, des Feux Daft Punk dont on parlait tout à l'heure.
La boucle est bouclée.
Mais quel tas.
Quelle émission.
Il y a dans Délicieux, Grégory Gadebois, Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédec, Christian Bouillette, Lorenzo Lefebvre, Marie-Julie Baupe, Laurent Bateau et d'excellents comédiens, comédiennes, et tout ça sous la direction d'Éric Bénard.
Et on a même la recette du délicieux.
En plus.
Et, oui.
Et parmi ces excellents actrices et acteurs, Isabelle Carré qui était notre invitée et qui revient donc le mois prochain.
Demain.
Comme prévu.
Demain.
Serait toujours la bienvenue, vous le savez. Merci Isabelle.
Merci et bon appétit.
C'est gentil. Délicieux, je vous rappelle, c'est mercredi prochain, mercredi en 8, pas demain, mais mercredi 8 septembre au cinéma.